à tous et bienvenue autour de cette grande table du vendredi. Helléniste de renom et historien du temps présent, à partir de 12h55, François Dosse dessine le portrait pour vous d'un intellectuel engagé en quête de vérité, Pierre Vidal-Naquet, à l'occasion de la publication de son ample biographie, celle qu'il consacre à cette figure de la vie intellectuelle et qui paraît à la découverte. Mais d'abord, Agnieszka Hollande, dire vrai, près de 30 ans après Europa, Golden Globe du meilleur film étranger, elle vient de présenter son nouveau long, Charlatan, hors compétition à la Berlinale, et poursuit une carrière internationale avec L'ombre de Staline qui sort en salle mercredi en France. Agnieszka Hollande est notre invitée à écouter tout de suite sur France Culture ou plus tard, si vous le souhaitez, sur franceculture.fr.
La grande table. Olivia Gesbert.
Dans l'Europe de l'entre-deux-guerres, L'ombre de Staline suit le journaliste britannique Gareth Jones, interprété par James Norton, dans sa quête de vérité jusqu'en Russie, puis en Ukraine, où il cherche à savoir si le miracle économique soviétique vendu par Staline est vrai et à quel prix se fait ce passage à la modernité. Bande-annonce.
Voilà mon rapport sur le miracle soviétique.
Quelle réponse donnez-vous ?
Je n'en ai pas. Les caisses du Kremlin sont vides. Et pourtant, ils dépensent sans compter.
Allô ?
Paul, j'ai besoin de ton
aide pour décrocher une entrevue avec Staline.
Gareth, je t'ai appelé plusieurs fois.
Écoute, c'est de ça qu'il faut absolument que je te parle. J'ai trouvé un gros morceau. Je peux démonter toute leur histoire.
Paul ?
Paul Kleb est mort. Tué par des voleurs il y a 3 jours.
Que voulez-vous ?
Ce dont personne n'ose parler.
J'ai vu le corps, 4 balles dans le dos.
Et vous refusez de croire à un vol. Sur quoi travaillait-il ?
L'Ukraine.
Le trésor de Staline.
Bonjour Agnieszka Hollande.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Pourquoi vous avez accepté ce scénario de l'américaine Andrea Chalupa ? Qu'est-ce qui vous a convaincu ?
D'abord, quand je connaissais le sujet, j'ai hésité un peu parce que quand j'ai fait 3 films sur l'Holocauste, je me suis dit que j'ai passé assez de ma vie avec les horreurs de 20e siècle. Et après, en lisant le scénario, d'abord, je me suis dit que cette crime contre l'humanité commis par Staline, comme d'ailleurs beaucoup de crimes communistes, est très mal connu et oublié, pardonné, dans certaines façons, que contrairement aux crimes d'Hitler, ces crimes communistes sont sortis de la conscience globale. Les gens les connaissent pas. Et ils ont oublié complètement l'ampleur des prix qu'il a fallu payer pour cette idéologie. Et je pense que c'est très injuste à propos des victimes de ces crimes. Et dans la grande famine en Ukraine, on parle de 4 à 9 millions de morts. On même sait pas combien ils étaient. Et après, je pense que c'est aussi dangereux pour le présent et pour l'avenir. Que si on tire pas des leçons de passé, on risque de les répéter. Et après, le personnage de Gareth m'a fasciné parce que je suis fascinée depuis longtemps par les personnages qui choisissent courageusement le bien, au prix de sa vie souvent. Et surtout si c'est un journaliste, si c'est un lanceur d'alerte, je trouve que c'est une figure qui, dans nos temps, est extrêmement nécessaire. Que les questions posées sur la vérité, sur le journalisme, sur les devoirs des médias, sur la honnêteté et objectivité des rapports des journalistes, c'est quelque chose que je trouve très, très, très actuel. Les fake news, la manipulation de la propagande, la facilité avec laquelle on distribue les mensonges, et à quel point les gouvernements, les hommes politiques sont lâches, et ils produisent ces mensonges ou ils acceptent ces mensonges parce que c'est plus commode, c'est plus opportuniste. L'indifférence de gens, l'indifférence d'opinion publique aussi, c'est quelque chose qui me sidère. Ces trois facteurs étaient réunis dans l'histoire de Gareth Jones et la famine en Ukraine. Je pense qu'il se passe aujourd'hui dans notre monde.
Voilà, parce que c'est un film, une histoire qui joue sur les oppositions, pas manichéennes, qui sont réelles. À la fois, vous l'évoquiez, celle de la vérité et celle de la raison d'État. Celle de deux figures du journalisme, et on va y revenir, celle aussi de deux figures historiques, parce qu'on est dans l'entre-deux-guerres et il y a l'ombre d'Hitler et celle de Staline qui sont omniprésentes. On ne les voit pas, mais derrière eux, il y a deux mondes qui se dessinent. Vous venez de l'évoquer, Agnieszka Holland, ce film, il est dans la continuité quand même de votre filmographie d'Amère récolte à Europa, Europa, puis Sous la ville. Vous racontez une fois encore l'histoire de cette Europe meurtrie par la guerre et par les idéologies. Là, comment décrire cette Europe de 1933 ? Année où ce journaliste va faire le voyage vers la Russie et l'Ukraine, l'ambiance très particulière de cette période où la paix ne semble tenir qu'à un fil.
Il faut voir le contexte, ça veut dire les années 30, le début des années 30, c'est d'abord seulement une dizaine, douzaine d'années après la Grande Guerre, qui a totalement bousculé l'Europe, surtout, qu'elle a montré aussi que le capitalisme donne pas la réponse à grandes questions de la modernité. Et la crise économique dans les années 20 a renforcé ces sentiments. Et voilà, il y a des réponses à cette angoisse, à cette désillusion. D'abord, c'est Hitler. La première réponse, c'est d'essayer de faire que rien s'était passé. Et c'était la stratégie de démocratie occidentale. Après, il y a Hitler avec cette idéologie d'inclusion où seulement l'Allemagne compte, seulement la race aryenne compte. Et après, il y a le communisme réalisé par Lénine après Staline en Union soviétique, qui pour beaucoup des intellectuels, des artistes, mais aussi les gens ordinaires, les ouvriers, c'est un espoir, le seul espoir pour sortir de cette crise profonde. Pour accepter la vérité de ce communisme, on se fait aveugle aux informations venant de là-bas, qu'en vérité, c'est pas un paradis, que ce sont pas les lendemains qui chantent. Mais on comprend les gens qui repoussent cette vérité ou qui pensent que, en tout cas, le défi est si grand qu'il faut payer par le sacrifice pour avancer.
C'est-à-dire qu'il y a deux versions qui vont s'opposer sur ce qui se joue là-bas, celle de Gareth Jones, qui est inconnu des lecteurs, qui est un pigiste, mais qui est déterminé à révéler la vérité, celle qu'il a découverte et vue de ses propres yeux, et celle de Walter Duranty, qui est correspondant du New York Times à l'époque à Moscou, qui a eu un prix Pulitzer, donc est un journaliste reconnu, établi, et qui va couvrir avec ses articles et ses équipes la propagande soviétique et la relayer. Est-ce qu'il incarne pour autant, à vos yeux, si on replace ça dans le contexte historique, Agnieszka Holland, la figure du journalisme corrompu, ou est-ce qu'il n'est pas aussi avalé par quelque chose qui semble plus grand que lui, c'est-à-dire l'envie de défendre une idéologie, et les idéologies sont fortes à l'époque. C'est en tout cas comme ça que lui présente ses positions.
Oui, Duranty, c'est un personnage très intéressant et très très contradictoire, parce qu'en même temps, il était corrompu. Hein. C'est assez évident aujourd'hui quand on connaît tous les contextes de ses actions et des profits qu'il a eu en travaillant pour Staline d'une certaine façon. Mais les excuses qu'il a sorties, s'ils étaient sincères ou non, c'est pas à moi de juger, étaient qu'il faut le faire comme ça. Après, il y a une jeune journaliste, Ada Brooks, qui aide Gareth dans son investigation. Et elle est très idéaliste, mais elle pense vraiment qu'il faut supporter le communisme parce que c'est ça la seule solution en face d'Hitler. Et après, il y a George Orwell que Garrett rencontre après son retour de Russie et qui ne veut pas croire que tout que Garrett dit est vrai. Ça veut dire qu'il y a trois réactions en face de la réaction de Garrett qui est très, très simple. Ça veut dire il entre pas dans la philosophie de politologique. Il dit le journaliste c'est une profession noble où le seul devoir c'est rapporter les faits comment ils sont, peu importe l'agenda politique ou idéologique. Je pense que c'est la question que beaucoup de journalistes aujourd'hui se posent dans le pays si fracturé et si polarisé, comme par exemple les États-Unis ou la Pologne ou le Royaume-Uni.
Et beaucoup se demandent, comme vous et votre caméra d'ailleurs, qu'est-ce que j'aurais fait à ce moment-là? Est-ce que j'aurais été aveugle ou est-ce que j'aurais su ouvrir les yeux et avoir le courage de transmettre cette vérité-là,
hein? Oui, voilà. Je me pose cette question aussi.
C'est pour ça que vous faites des films. Mais c'est pour ça que d'autres ont fait des livres. Vous évoquez George Orwell, figure qui est présente dans le film à travers celle de l'écrivain en ouverture, en fermeture. Il est en train d'écrire La ferme des animaux, livre paru en 45. Cette fable qui permet aussi de raconter d'autres vérités. Pourquoi ce livre est le deuxième niveau de fiction dans votre film, Agnieszka Holland?
Quand je lis le scénario d'Andrea, déjà le personnage d'Orwell, cet niveau de ferme des animaux existait, ça m'a séduit. Ça veut dire, j'ai trouvé tout de suite certains rapports très personnels avec cette procédure, parce que je pensais aussi que ça donne à toutes les récits un côté un peu métaphorique ou symbolique. Mais il y avait des raisons tout à fait personnelles, surtout pour Andrea, qui a écrit le scénario. Elle est une jeune journaliste américaine, très engagée aussi politiquement. Et à cause de ça, de choisir Garrett comme le personnage principal était pour elle un choix très, très personnel et excitant. Mais elle est d'origine ukrainienne. Son grand-père est un des survivants de Holodomor, de cette grande famine, et aussi un des témoins principaux devant le Congrès américain qui a reconnu cette crime-là comme la crime contre l'humanité. Et son grand-père, qui lui a raconté beaucoup des histoires concernant les Holodomor, il était après la guerre dans un camp de personnes déplacées parce qu'il était pris en otage par les Allemands comme les soldats soviétiques. Ils étaient avec beaucoup des Ukrainiennes qui n'ont pas voulu d'entrer dans son patrie parce que c'était trop dangereux pour eux. Et exactement par hasard, ils ont trouvé le petit bouquin de George Orwell, la ferme des animaux. Ils ont lu, ils étaient bouleversés, ils ont pensé que c'est l'ère de l'histoire, que ce livre raconte leur expérience. Et ils l'ont traduit en langue ukrainienne. Et comme ça, c'était la première édition étrangère qui a apparu de ce livre. C'était dans cette langue. C'est-à-dire, il y avait un rapport entre Orwell par hasard. Orwell aussi était inspiré par l'histoire de la famine, ça on le sait.
Oui, parce qu'on a parlé de la force aussi du journalisme comme révélateur de vérité, mais ça dit quelque chose aussi de la puissance et de la force de la fiction pour lutter contre les fausses informations et les mensonges. Hein. On peut beaucoup faire à travers la fiction.
Moi, je crois en fiction, même si aujourd'hui, les films qui sont les plus discutés, en majorité des cas, ce sont les films qui sont tirés des événements vrais ou racontent les vrais personnages. Et mes films, d'ailleurs, la majorité de mes films dernièrement racontent ça. Pourtant, je crois que les vraies réponses viendront de l'imagination. Et que l'imagination, c'est quelque chose qui nous manque le plus. Je suis amie avec l'écrivaine polonaise Olga Tokarczuk, qui a eu récemment le prix Nobel
de littérature.
Avec elle, on a écrit, après j'ai réalisé un film Pocotte, selon son livre. Et elle, exactement, peut-être la dernière Mohicaine qui croit vraiment que l'imagination peut changer le monde et qu'il ne faut pas regarder seulement en arrière, mais qu'il faut voir ça qui se dessine devant nous.
L'imagination et la vérité, vous évoquez dans ce film qui sort en salle mercredi, cette vérité inimaginable, incroyable, couverte par la propagande dans ce début de décennie, au début des années 30, celle de cette famine en Ukraine nommée l'Holodomor. En moins de 2 ans, près de 7 millions de personnes, de 4 à 9 millions de personnes, disiez-vous, vont mourir affamées. Des paysans, principalement victimes de la collectivisation forcée des campagnes. Et c'est cette histoire méconnue que raconte aussi votre film Agnieszka Holland. Un film qui reste d'actualité. Lorsque vous l'avez présenté à la Berlinale l'an passé, vous avez transformé aussi cette présentation en un véritable plaidoyer pour les médias libres et courageux. Cette figure du journaliste Gareth Jones qui a vraiment existé fait penser aux lanceurs d'alerte d'aujourd'hui, comme Edward Snowden qu'on écoute.
Le concept du renseignement n'est pas comme dans les films. Cela ne devrait jamais être comme ces fantaisies à la James Bond. On défonce des bâtiments, on tue des gens, on brûle des maisons, des bases militaires. En réalité, il s'agit de protéger la société et les civilisations, non par des actes criminels, mais plutôt en trouvant la vérité. En exprimant cette vérité aux personnages les plus puissants de votre gouvernement, pour être sûr que leur politique soit en ligne avec les faits. La plus grande tragédie après le 11 septembre, c'est que les politiques de notre gouvernement ont divorcé des faits. On a commencé une guerre sur la base de fausses informations que les plus hauts personnages de l'État savaient fausses.
Voilà le témoignage d'Edward Snowden en 2015 à la radio-télévision suisse, à la RTS. Je ne sais pas si c'est un hasard, mais il y a une ressemblance entre votre acteur James Norton, celui qui incarne Gareth Jones, et Edward Snowden. Au-delà de ça, que se passe-t-il, et c'est ce qu'évoque Edward Snowden dans ce témoignage, quand les politiques divorcent avec les faits, dans quel monde risquons-nous de basculer?
Ben, on vit ça maintenant à grande échelle. Parce que il y a tellement de défis et tellement de dangers, tellement des angoisses dans la modernité, les gens savent pas comment vivre avec, comment accepter ce changement, comment les approprier. Et ils sont vraiment très angoissés. Cette angoisse fait monter aussi les agressivités et la haine. Et les seuls qui disent qu'ils possèdent la réponse, ce sont les dirigeants populistes. Et leur réponse, c'est un mensonge. Mais c'est un mensonge qui calme les gens parce que ça dit, on s'occupe de vous, il faut se protéger, il faut construire les murs autour. Nous sommes les plus importants, la reste, on s'en fout. Bien sûr, je simplifie. Et maintenant, on est confronté encore, en même temps, on a les deux grandes catastrophes, c'est le virus d'abord, qui pour l'instant n'a pas réveillé les vagues de la solidarité, le contraire, même au sein de l'Union européenne.
Vous trouvez?
Oui. Il faut écouter les Italiens qui sont extrêmement déçus, hein, parce que tous les plaidoirs qu'ils ont fait au début de la grande crise d'être aidés avec le matériel étaient refusés par l'Union européenne et par des pays comme la France ou l'Allemagne. C'est la Chine finalement qui les a envoyés les masques maintenant. Et on voit en même temps la crise des réfugiés, la nouvelle crise à la frontière turco-grecque. Et on voit aussi que l'Europe, la seule angoisse de l'Europe, c'est de le dépousser de nos frontières. C'est pas de trouver la solution qui pourra aider ces gens qui sont en train de mourir ou qui sont dans des conditions totalement inacceptables, inhumaines. Et je me demande si le virus se répand là-bas, qu'est-ce que va se passer avec cette population dans le camp des réfugiés et tout ça. C'est-à-dire, On a rien appris, à vrai dire, de l'histoire. On a, j'ai fait le film qui raconte certains moments de l'histoire, hein, en espérant que ça va réveiller certaines empathies, que les gens, que ça fait réfléchir. Mais en même temps, on voit bien que les événements, que les vaccins qui étaient faits par le grand totalitarisme des années, des 20e siècle, des premières parties du 20e siècle surtout, que cette vaccination s'évaporait. Mmh.
La réalisatrice cinéaste polonaise Agnieszka Holland est notre invitée jusqu'à 12h30 à l'occasion de la sortie en salle de son film « L'ombre de Staline ».
France Culture, La Grande Table, Olivia Jesbert.
Agnieszka Holland, vous êtes polonaise d'un pays voisin, pas très lointain de l'Ukraine, où se situe une grande partie de l'action, entre guillemets, de votre film « L'ombre de Staline », d'un pays aussi qui a connu l'influence soviétique puis russe pas très loin. Aujourd'hui, comment vous regardez la situation en Ukraine ? Est-ce qu'on est encore dans l'héritage de cette histoire-là, de celle que vous racontez dans votre film ?
Oui, assurément. Et l'Ukraine maintenant est en train de se bâtir l'identité nationale, parce que c'est quand même un pays qui était né il y a 30 ans. Et depuis 5 ans, 6 ans, c'est la guerre. Ça veut dire cette guerre-là qui est à l'est d'Ukraine est très très présente dans des familles et dans les esprits des gens. Et cette guerre-là, ça veut dire la situation dans le Donbass ou dans les régions comme ça, c'est un peu les conséquences de la grande famine, parce que c'était dans ces territoires-là que le plus grand nombre de paysans ont péri pendant cette famine. Et les villages étaient vides, complètement vides. Et ils étaient peuplés par Staline avec les migrants russes. Et ça veut dire l'équilibre ethnique de la population a changé, et maintenant cette fracture qui existe en Ukraine, c'est à partir de la fracture qui était faite par la famine. Mmh. À part de ça, bien sûr, il y a des séquelles très profondes dans la société, dans les familles, parce que la famine, en plus, on ne pouvait pas en parler. C'était quelque chose, c'était un trauma refoulé, pas travaillé vraiment. Et aujourd'hui, quand je rencontre quelqu'un d'Ukraine qui regarde mon film, il éclate tout de suite en larmes. Ça, même les gens très très jeunes, ça veut dire ça va par les générations et ça ressort comme ça. Je suis fière que je l'ai fait, parce que je pense que pour les gens là-bas, c'est un film très très important. Et je pense que ça aussi montre à quel point ils étaient solitaires à l'époque et à quel point aussi ils sont solitaires aujourd'hui.
Et sur l'influence de la Russie, on vient d'apprendre que le Parlement russe autoriserait à Vladimir Poutine la possibilité de refaire deux nouveaux mandats, ce qui l'amènerait au-delà des années 2030 à la présidence du pays. On continue à voir là-bas l'influence et l'importance d'avoir un homme fort dans ces pays. Ça vous inquiète ?
Ça m'inquiète bien sûr. Ça m'inquiète bien sûr, mais... Bon, c'est au peuple russe de se réveiller, si vous voulez. Ça changera pas sans une vraie vague d'opposition. Et je pense que Poutine a pris ces mesures exactement parce qu'il a senti que dans la situation démocratique, il peut perdre un jour. Mm. Un jour, mais pas trop lointain. Mais, vous savez, moi, je pense que cette situation-là se généralise. On voit les petits Poutine un peu partout. Regardez les Indes, regardez la Turquie, Brésil, Philippines. On n'est pas très loin de cette logique autoritaire dans les pays comme la Pologne ou l'Hongrie. On a comme le dirigeant des mondes libres, soi-disant, Donald Trump. Il faut dire que que ce virus-là est peut-être plus dangereux que le coronavirus qu'on vit maintenant.
Voilà, et les États-Unis où vous vivez, une partie de votre temps, Agnieszka Holland, vous êtes l'une des scénaristes, notamment de House of Cards. Est-ce que Trump, pour vous, a des points communs avec un Frank Underwood dans cette série? Est-ce que ce président américain, qui est en lice lui aussi pour un nouveau mandat, est un personnage de fiction, voire même bien plus que cela?
Oui, j'avais l'impression parce que exactement, je fais deux épisodes de House of Cards au moment des dernières élections américaines. C'était totalement surréaliste parce qu'on avait l'impression que le personnage de Frank Underwood est sorti de petit écran, il est entré dans la réalité et il est élu à la Maison Blanche. Et je me suis dit, si on n'est pas un tout petit peu responsable, si en montrant ces possibilités-là, on n'a pas ouvert par notre imagination exactement la porte de l'accepter quelqu'un comme ça dans la réalité, c'était très bizarre. Mais bon. Peut-être on va inventer, à cause de ça maintenant, plusieurs personnages nobles, positifs, avec une imagination qui réunit et pas divise. Et peut-être, si on le montre au cinéma, il aussi sortiront de l'écran pour vivre entre nous et peut-être diriger le pays un jour.
On voit que l'époque pour vous aussi est inquiétante et fascinante à la fois et qu'on est dans un moment assez charnière. Où est-ce que vous, qui avait beaucoup voyagé, où est-ce que vous aimez vivre aujourd'hui? Où est-ce que vous vous sentez chez vous, Agnieszka Holland?
C'est la Bretagne. Mais c'est à cause de ça que j'aime le paysage, j'aime les gens. J'ai une maison là-bas depuis 25 ans. Mais c'est là où je trouve le refuge. Mais c'est un tout petit peu, bon, c'est un lieu solitaire aussi. Ça veut dire que je ne suis pas obligée de me battre là-bas. C'est peut-être une espèce d'asile paradisiaque qui n'est pas complètement réel. Mais je vis entre la Pologne, la France et les États-Unis. Dans deux de mes pays de ce triangle, les gouvernements sont plutôt difficiles pour moi à accepter. J'espère que la France ne tombera pas aussi dans cette piège populiste.
Voilà, vous reprochez souvent à l'Europe de ne pas avoir réussi à protéger ses valeurs. Merci beaucoup à vous, Agnieszka Holland, d'être venue nous parler de ce film qui sort en salle, on croise les doigts, ce mercredi, L'ombre de Staline, que vous venez de réaliser sur un scénario de l'américaine Andrea Chalupa. Merci beaucoup à vous.
Merci beaucoup. Merci. Le film aussi est agréable à voir, il faut dire. C'est pas seulement les récits théorético-politiques. Je ne veux pas décourager les spectateurs.
C'est une grande fiction et que vous menez tambour battant pendant 2 heures. On en perd presque parfois notre respiration. Merci beaucoup à vous.
Merci à vous.